a été dit, le texte principal, le texte de base, c'est Jérémie 22, le verset 13 jusqu'au verset 19. Aujourd'hui, il nous a été proposé de parler d'un thème qui est intitulé « Pour restaurer l'image de notre pays, ma contribution personnelle ». Pour restaurer l'image de notre pays, quelle est ma contribution? Quelle est ta contribution? Je me suis dit, en préparant cet enseignement, que je vais beaucoup me focaliser sur les textes. Et à partir du texte, nous allons maintenant dégager ce que nous pouvons donner comme contribution personnelle à l'avènement de la RDC qui soit une nation de justice. Une nation où les libertés et les droits sont respectés, où la dignité humaine est respectée. Mais effectivement, nous verrons, nous allons faire un petit arrêt sur les contextes de la RDC pour finir avec les messages et certaines pistes de solutions à la restauration de la RDC. Bienvenue dans le Seigneur. Ce que le pays traverse aujourd'hui nécessite l'apport de chaque citoyen, de chaque citoyenne. Et donc les chrétiens, à l'instar des prophètes, et au regard de sa présence, où qu'il soit, il est celui sur qui Dieu compte pour promouvoir la justice et les droits. Nous avons déjà lu les textes, nous allons plus les lire. Mais je voudrais rappeler qu'hier, il y a une sœur qui a posé la question, et d'ailleurs c'était son vœu, et nous a dit qu'elle aimerait faire les études de droit. Mais quand elle observe dans la pratique, les juristes, les avocats, les magistrats ne disent pas les droits comme ils se doivent. C'est vrai. Parce qu'en droit, l'important, c'est de savoir prouver. En droit, ils ont une expression qui dit « A droit, c'est lui qui n'a pas droit. A droit, c'est lui qui sait prouver. » Ici, facilement, on peut léser beaucoup de gens, surtout ceux qui n'ont pas assez de moyens de défense. Mais je crois que pour les juristes, pour l'avocat ou les magistrats chrétiens, celui-ci doit plutôt écouter la voix de Dieu qui lui demande d'être juste dans ses jugements. Alléluia. Maintenant, pour restaurer l'image de la République démocratique du Congo, quelle est ma contribution? J'aimerais qu'on comprenne d'abord notre texte. En lisant Jérémie chapitre 22, du verset 13e au 19e, nous trouvons que cette partie se situe dans la première grande partie, dans la première grande articulation de ce livre, qui va du chapitre 1er au chapitre 25 jusqu'au verset 14, et qui traite des oracles et des actions symboliques de Jérémie contre la maison de Juda. Mais précisément, lorsque nous voyons, nous nous limitons au verset 13 et 19, nous voyons qu'ici, l'oracle en question, ou le message en question que Jérémie, le prophète Jérémie amène de la part de Dieu concerne seulement la maison de David sous le règne du roi Joachim. Pour rappel, alors que le roi Josias avait déjà amorcé la réforme tant spirituelle et politique, mais à sa mort, son fils qui le succède n'a pas continué dans la même voie de son père. Lorsque nous lisons le verset 15b de Jérémie chapitre 22, la Bible dit « Ton père ne mangeait-il pas, ne vivait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fit errer. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fit errer. » En fait, la Bible témoigne comment Josias, au moins lui, avait de la passion pour la justice et la défense de l'indigent et la défense du pauvre. Le prophète Jérémie rappelle, il le rappelle à son fils Joachim qui l'a succédé. Et d'ailleurs, la Bible dit, en s'appliquant à la justice, le roi Josias fit errer. Malheureusement, Joachim fit un mauvais, méchant roi qui régna sur Juda de 609 à 597 avant Jésus-Christ. Voilà pourquoi, en lisant Jérémie 22, les versets 13e au 19e, nous voyons d'emblée que le prophète Jérémie est en train de reprocher au roi vis-à-vis de ses injustices. Quelles sont ces injustices qu'on lui reproche? En fait, le roi est mis en défi devant quatre fautes qu'il a commises contre sa propre nation. En fait, au regard du message que Jérémie apporte au roi, il y a lieu de subdiviser notre texte du jour en deux parties qui constituent en même temps la structure de ces passages. La première partie traite des fautes du roi Joachim. Le prophète met le roi devant quatre fautes qui se résument à l'injustice et l'égoïsme. Et ça, nous trouvons ça du verset 13e au 17e. Alors, la première faute que nous retrouvons directement au verset 13, il est dit que le roi bâtit sa maison dans l'injustice, en privant au prochain, c'est-à-dire les salariés, les travailleurs et fonctionnaires, il les prive de leur salaire. La deuxième faute, nous la retrouvons au verset 14, où le roi, intentionné et animé de convoitises et passions personnelles, il s'est bâti une grande maison avec des chambres spacieuses et un bon ornement de cette maison. On dirait des vilains pour nous aujourd'hui. Et pour y arriver, le roi a utilisé de l'argent destiné aux nécessités et qui servirait pour relever l'économie du pays en cette période de crise où la pauvreté augmentait à cause des pénibles taxes que faisaient payer les rois d'Égypte et celui de Babylone. En fait, pour bien comprendre, c'est mieux de connaître un peu l'histoire de la Judée et d'Israël. À un moment donné de l'histoire, la Judée était sous l'emprise de l'Égypte, tantôt sous l'emprise ou sous l'influence babylonienne. C'est dans ce dilemme où il fallait soit se positionner pour la puissance égyptienne ou pour la puissance babylonienne que se trouvent maintenant les Judéens et en l'occurrence les rois de Juda. Faut-il faire allégeance au roi de l'Égypte ou au roi Nabucodonosor, celui de Babylone? Voilà pourquoi c'est en face de cette majorité où les prophètes Anania et ses amis, ainsi que les rois, qui optent résolument pour une politique visant à reconquérir leur indépendance, mais en s'alliant avec l'Égypte, avec tous les autres pays voisins de Judée, qui sont aussi menacés par l'avance babylonienne. Mais aussi, il y a une minorité soutenue par Jérémie et son secrétaire Baruch, qui se disent non, au lieu de faire allégeance à l'Égypte, plutôt nous accommoder à la tutelle babylonienne, dans l'espoir de garder une certaine autonomie au sein de l'empire de Nabucodonosor. Malheureusement, la majorité a gagné, mais ce n'était pas la voix de Dieu. Maintenant, dans cette situation où la Judée est sous l'influence babylonienne, les rois se sentent beaucoup plus redevables vis-à-vis de l'envahisseur, c'est-à-dire de la puissance babylonienne. Par conséquent, il n'a pas de compte à rendre à son peuple. Et ce qu'il trouve de meilleur, c'est d'opprimer et exploiter son propre peuple. Et là, facilement, les rois, au détriment de tous les peuples, il se préoccupe de ses propres intérêts. C'est construire des maisons, priver les travailleurs de leur salaire, travailler au compte de la grande puissance en asphyxiant son peuple par des lourdes taxes. Bienvenue dans le Seigneur, la troisième et la quatrième faute reprochée au roi, nous les retrouvons au verset 15e et 17e. C'est le fait que ces derniers, c'est-à-dire les rois de Joachim, plutôt qu'ils puissent se tourner vers la justice, en servant son peuple, et concilier ses actions avec la paix de Dieu à faire du bien. Les rois, dit la Bible, a versé beaucoup de sang innocent et a été très méchant. Il a été violent envers son père. Autrement dit, Joachim a oublié. Il a méconnu Dieu. Joachim n'a pas craint Dieu dans l'exercice de ses fonctions de garant de la nation judéenne. La deuxième partie de notre texte d'aujourd'hui va du verset 18e au 19e, qui traite de l'annonce du jugement. Maintenant, le prophète Jérémie annonce le jugement qui va s'abattre sur les rois qui oppriment et qui exploitent son propre peuple. Ce jugement concerne la mort scandaleuse et honteuse du roi mauvais et violent, Joachim, qui ne respecte pas et qui ne fait pas respecter la justice. Voilà pourquoi la Bible dit « Il n'aura personne à les plaider. » Là, c'est au verset 18b. « Et il sera enterré comme une bête. » Au verset 19. Cette compréhension du texte, bien-aimé, offre un message pour nous aujourd'hui. Mais lequel? Voilà pourquoi, avant tout, comment se présente d'abord le contexte de notre pays. Nous l'avons vu hier que le tout premier président avait 5 ans. L'autre avait 32 ans. Le fait président de Laurent Désiré Kabila en a fait 3. Et l'actuel président fait maintenant 18 ans. En fait, comme la Judée, à l'époque de Jérémie, notre pays continue à faire payer de lourdes taxes à ses propres citoyens et aux étrangers. D'ailleurs, depuis Bellivette, le pouvoir en RDC a été utilisé pour faire souffrir les peuples et casser la justice. Beaucoup de ressources nationales servent à des fins égoïstes, à intérêts individuels, voire partisans. Le financement public est détourné et ponctionné. Un enseignant nous disait, quand nous étions à l'Inigov, il nous disait, pour bien comprendre comment les fonds publics sont ponctionnés, il suffit qu'on envoie de l'argent dans une structure donnée, étatique. Une fois l'argent arrive dans cette structure, il y a celui qui dit, dans cet argent, je dois soutirer un pourcentage. Mais à son tour, il est appelé à donner à celui qui va exécuter tel ou tel projet. Celui qui va recevoir cela au niveau de son projet, au niveau de l'exécution du projet, lui aussi dit, avant d'exécuter le projet, je dois ponctionner. Quelle est ma petite part? Et à la fin, celui qui va exécuter réellement la tâche pour laquelle l'argent était destiné, il se trouve dans l'embarras. Il se dit, il y fait ça à vite à Toshater, parce que l'argent a été ponctionné à tous les niveaux. Les salaires des agents et fonctionnaires de l'État est vraiment dérisoire. Et d'ailleurs, plusieurs jeunes finissent leurs études, mais ils n'ont pas d'emploi. Depuis l'indépendance à nos jours, pour se maintenir au pouvoir, et lorsque nous voyons comment même les rois Joachim s'est comporté vis-à-vis soit de l'Égypte, soit de la Babylone, maintenant aujourd'hui nos dirigeants s'alignent aussi derrière les grandes puissances. Et de ce fait, ils vont travailler pour les comptes de ces puissances-là. Ce qui choque, bien-aimés, ce qui choque tout observateur et tout citoyen et toute citoyenne de ce pays, c'est le fait de voir l'écart qui existe entre, d'une part, les peuples sur qui et pour qui le pouvoir est exercé et qui reste misérable. Et les gouvernants, une poignée de personnes qui sont très riches au détriment du peuple, d'autre part. Ceci est la preuve qu'il n'y a quasiment pas de sens du bien commun et de la justice dans notre pays. La politique, elle est devenue ce métier où tout le monde veut entrer parce qu'il paye bien sans beaucoup peiner, à part le fait qu'il faut mentir, qu'il faut voler, détourner, sans être inquiété. C'est la politique du ventre qui fait que l'État, qui engage, reste pauvre, alors que ses employés deviennent de plus en plus riches. En fait, ça choque lorsque quelqu'un a été engagé par l'État, mais devient riche plus que l'État qui l'a engagé. Et lorsqu'il s'agit d'intervenir, lorsqu'il y a une catastrophe, on va dire, à la radio que c'est les dons des ténèbres. Ce n'est plus l'État qui intervient, mais ce sont des individus qui interviennent en termes de dons. Alors, pour restaurer l'image de la RDC, quelle est ma contribution personnelle? Bien-aimés, nous inspirant de Jérémie 22, verset 13 à 19, nous dégageons trois messages qui peuvent être considérés comme contribution de l'Église et du chrétien, de la chrétienne, pour la restauration de l'image de notre pays. Premièrement, nous devons savoir que le prophète Jérémie reproche au roi des fautes, de ses fautes, et cela prouve que le roi n'est pas supérieur aux lois du pays. Alléluia. Les gouvernants étant des serviteurs de Dieu, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 13 au verset 4, ils sont des serviteurs de Dieu pour les biens du peuple. Ainsi, ils doivent être modèles pour la justice, car ils sont comme les pasteurs aussi. Ils sont comme les bergers des brebis. Voilà pourquoi il est clair que Dieu n'est pas du côté des mauvais et des méchants gouvernants, parce qu'il les installe, il les établit en vie du bien. Ainsi donc, l'Église, en tant que la voix du prophète, nous sommes appelés à être courageux, d'approcher les gouvernants et les reprocher au nom de Dieu leurs fautes en les orientant par notre vie moderne, par la parole de Dieu. En fait, il est malaisé de reprocher quelqu'un quelque chose dont on n'est pas modèle. C'est ça aussi le problème de l'Église à l'RDC. Tout chrétien et toute chrétienne à l'instar de Jérémie doit s'aligner du côté de Dieu en dénonçant le mal et barrer la route à ceux et celles qui veulent abuser de leur pouvoir plutôt que de servir le peuple. Deuxièmement, en partant du verset 13 et 14, ce verset nous montre qu'il y a un malheur qui peut s'abattre sur toute maison bâtie sur base de l'injustice. Bien aimé, c'est un appel vibrant, indirectement adressé à chacun et à chacune de nous, dans sa sphère de vie, de s'appliquer quotidiennement à la justice, dans sa manière de vivre, dans sa manière de faire et dans sa manière de dire. Si nous regardons bien et commençons la lecture de ce chapitre au verset 1er, nous voyons que cet oracle concerne la maison du roi de Juda. Essayons de lire du verset 1er au 4e, chapitre 22 de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda, et là prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple qui est entré par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ces lieux. Nous pouvons nous limiter par là. Bien que c'est contre les rois de Juda que cette parole soit adressée, mais elle concerne aussi tous ceux et celles qui habitent cette maison, ou alors cette nation, en l'occurrence, les rois et sa famille, ses serviteurs et tous les peuples. En fait, la Bible présente la maison comme les lieux d'éducation, les lieux de transmission des lois de Dieu, les lieux de transmission des valeurs sociales. Et quand nous lisons même certains passages du Nouveau Testament, la maison, c'est aussi les lieux du salut. Les geôliers, lorsqu'il s'est rendu compte que la prison était déjà ouverte, et lorsqu'il a voulu se faire la mort, Paul et Silas lui ont dit, ne te fais pas du mal, nous sommes là tous. Il les a conduits dans sa maison. Et la Bible dit, une fois dans sa maison, il a crié, lui et sa famille, tous ont été baptisés. Jésus, dans son ministère public, a trouvé bon d'être accueilli dans la maison des Zachée. Et il a dit, descends Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Et donc la maison, c'est le lien du salut. Et même lorsque vous lisez Timothée, chapitre 3, verset 4 à 5, où il faut choisir les épiscopes, il est dit que celui qui pourra être choisi qu'il soit en mesure de bien tenir sa maison. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si votre maison était la maison où les alliés témoignaient. Est-ce que les gens veulent vivre longtemps chez vous? Essayons de voir comment nous maltraitons les veuves de nos propres familles. Je me dis, qui nous a ensorcelés? Vous les beaux frères, vous les belles sœurs, pourquoi lorsque votre frère meurt, vous devenez de plus en plus menaçant et dangereux? Mesdames et messieurs, essayons de voir comment nous répartissons même les tâches dans la maison. Il y a ce que les filles doivent faire et ce que les garçons ne peuvent jamais faire. Cette maison n'est pas une maison où la justice est vécue. Alléluia. Ceci invite les membres de chaque maison, chaque famille, à faire de la justice un style de vie pour que les restes de la société en bénéficient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que c'est la famille qui produit tous les dirigeants. Et donc tout ce que nous subissons est le fruit de ce que la famille a pu faire comme tâche. En bon, vous revenez des études, de l'université, parce que vous êtes garçon, il faut qu'on vous mette même les repas à la table, qu'on vienne avec de l'eau, ce que vous faites seulement, c'est d'étendre vos mains quand vous manquez à manger. Et à la fin, il faut dire, venez débarrasser. En fait, la justice doit être un style de vie pour nous, chaque jour davantage, pour que le reste de la société puisse être bénéficiaire. Troisièmement, bien-aimés, notre liberté est effective et sera effective quand toutes les choses iront bien dans notre pays. C'est-à-dire, la crainte de l'Éternel doit remplir toute la nation et la justice devrait être le cheval de bataille de tout citoyen. Qu'il soit gouvernant ou non, qu'il soit militaire ou civil, qu'il soit de la majorité au pouvoir ou de l'opposition, la justice doit être notre cheval de bataille. Autrement dit, la justice, c'est l'affaire de nous tous. Et si je voulais dire que nous, les chrétiens, je vous assure, pour critiquer les politiciens et nos gouvernants, nous sommes très champions. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas encore modernes. Et c'est ici que proviendrait la grande contribution de chacun et chacune de nous pour qu'il y ait restauration de l'image de la RDC. Mais alors comment? Il est important que chacun et chacune de nous sache que la justice doit commencer avec lui. Alléluia. La justice doit commencer chez vous. Voici quelques illustrations qui nous interpellent. Si le pays va mal, cela n'autorise personne à se méconduire ou à opprimer aussi ceux qui sont sous son pouvoir. Voyez comment nous maltraitons nos versets à la maison. Et c'est là avec qui nous avons convenu une petite prime. Comment nous les payons? Et de quel salaire nous les payons? Bien-aimés, soyons sérieux. Soyons vraiment justes et raisonnables. Mais comme le pays ne paye pas bien ses fonctionnaires, alors le chrétien qui a sa boutique en ville, qui a sa boutique à Biréré, il doit bien payer ses travailleurs. Essayez de voir comment vos travailleurs font entrer beaucoup d'argent, mais le salaire que vous les payez, c'est un salaire minime, vous les exposez. Mais aussi, être mal payé n'est pas aussi synonyme d'être autorisé pour voler. Ou vous êtes payé soi-même à l'insu de son patron. La justice doit nous caractériser partout. Et voyons aussi comment nous payons les maçons, les menuisiers qui nous construisent nos maisons. Vous convenez avec lui, mais en réalité, c'est que vous les payez. Et même si vous allez payer, mais après combien de temps? La Bible dit, la justice doit commencer dans la maison. Parce que la maison, c'est le lieu du salut. Mais si la société est rongée par la discrimination, l'homme et la femme, chrétien et chrétienne, accorderont les mêmes droits et faveurs aux enfants sous leur toit. Qu'est-ce qui fait que la fille peut commencer ses études à un moment donné? On peut l'arrêter parce qu'il n'y a pas de frais, mais on laisse les garçons poursuivre les études. C'est la Bible qui l'autorise. Mais si l'État échoue, la liberté d'expression et d'opinion, l'Église et les familles chrétiennes seront des oasis de paix, seront des oasis d'amour et de liberté. En fait, bien-aimé, j'aimerais souligner ceci. L'épée des lois que tu as déjà connue, quand les articles Kamoya comme constitution que nous mettons, respecte ça et fais les respecter. Et je crois que si nous faisons cela ainsi, Dieu sera glorifié. Et le malheur s'écartera de nos maisons et de notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on le veuille ou pas, et même si les gouvernants ou les familles peuvent faire longtemps au pouvoir ou persister à maltraiter l'un ou l'autre membre de la famille, il y a toujours le jugement de Dieu qui s'abattra sur ces gens qui font l'injustice. Jérémie 22, 18 à 19, le dit mieux que le jugement est là. Le jugement s'annonce à tous ceux qui font, tous ceux qui oppressent, tous ceux qui exploitent les prochains, à l'occurrence les pauvres et les indigents. Mais aussi l'histoire l'a prouvé, tous les dirigeants qui ont exploité, qui ont opprimé leur propre peuple, ils ont mal fini leur carrière politique. Ils ont mal fini leur vie dans la tombe. Et ils ont manqué même les derniers honneurs à l'enterrement. Ceci servirait de leçon normalement à nous tous. Voilà pourquoi, bien-aimés, pour combattre et pour contribuer à la restauration de l'image de la RDC et en rapport avec la justice qui doit commencer avec moi et avec toi, je propose encore une fois le modèle de reconstruction de Jérémie. Avant de déduire quelques éléments en rapport avec la reconstruction, lisons d'abord, nous l'avons déjà lu, Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 10. Et là, nous pouvons voir Jérémie qui est entré, après avoir compris qu'il a été appelé par le Seigneur, il se met à avertir les peuples. Il les avertit par rapport à la mission que le Seigneur lui a confiée. Et cette mission se résume à la déconstruction des antivaleurs. Se résume à la construction des nouvelles valeurs. Essayons de voir ce qui résume la vocation de Jérémie. Jérémie a compris que c'est Dieu qui l'appelle à contribuer à la restauration de l'image de son pays. Et à l'instar de Jérémie, bien-aimé, nous sommes aussi appelés par Dieu pour contribuer à la restauration de l'image de notre pays par la justice, j'insiste, dans notre maison, dans nos maisons. C'est-à-dire que le pays doit être notre affaire à partir de nos propres maisons. Imaginez, nous avons eu un candidat en 2011 qui, après avoir étudié sa première épouse, il a pris la seconde épouse et puis il s'est présenté comme candidat député provincial. Autrement dit, il était en train de solliciter la chance pour avoir assez d'argent, pour avoir davantage d'autres femmes. Parce que s'il a répudié la première quand il n'est pas encore député et quand il le sera. Mais nous avons la vocation de rétablir, de contribuer à la restauration de l'image de notre pays à partir du moment où nous vivons d'abord la justice dans nos propres maisons et savoir que cet appel, c'est pour l'ensemble du pays. Voilà pourquoi nous devons avertir les peuples, avertir les voisins et les dirigeants quand il faut pour éviter les pires dans les pays. La Bible, dans la version TOB, a utilisé certains verbes d'action et qui sont forts. La Bible a dit déraciner. Ce que le Seigneur a donné comme mission à Jérémie, c'est de déraciner, de renverser, de ruiner et démolir ce qui ne va pas bien. En fait, nous ne sommes pas obligés de continuer à suivre le mal, de continuer avec les antivaleurs. Nous devons les déraciner, nous devons les démolir. Et à l'occurrence, la corruption, l'impunité, l'indiscipline, les vols, les détournements, les mensonges, la prostitution, la banalisation de la vie humaine qui ont élu domicile dans nos maisons et dans notre pays. Ainsi, nous devons détruire toutes sortes d'antivaleurs parmi nous. Nous devons bâtir et planter, autrement dit reconstruire de nouvelles valeurs. La valeur de justice, la solidarité, le respect, la promotion de la dignité humaine. Nous devons promouvoir l'équité. Et à chaque fois que vous avez un travail, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit un travail qui donne assez d'argent ou non, vous devez vous assurer que vous faites ce travail
très bien.
La culture du travail
bien fait.
Nous devons avoir une attitude d'adopter des disciplines personnelles, de ne pas pécher contre Dieu et contre les prochains. Nous devons être intègres. Et là, bien-aimés, c'est tous les acteurs qui sont impliqués, y compris les chrétiens. Pour finir, je voudrais rassurer toute personne en difficulté d'emploi, en difficulté de paiement des frais scolaires et académiques, en difficulté d'avoir un salaire décent, en difficulté de payer les loyers et beaucoup d'autres requêtes, que Dieu n'étendra pas à vous rétablir dans vos droits et votre dignité. Alléluia. Et même pour notre pays, ne soyons pas désespérés et commencez à compter sur tel ou tel politicien, telle ou telle puissance, tel ou tel pays voisin. Qui vous dit que c'est la SADC qui viendra sauver les Congo? Mais le Congo sera sauvé par les Congolais à partir de la justice dans leur propre famille. Nous avons un rôle prophétique, celui d'annoncer et de vivre la bonne nouvelle et de dénoncer le mal. Si nous nous appliquons à pratiquer la justice, bien-aimés, Dieu viendra à notre secours. Car il est capable de mettre fin à un système, à un régime, voire à des dirigeants qui sèment la désolation de ceux qui lui sont fidèles. Ayons donc à cœur de défendre les droits de l'opprimé, du pauvre et de vivre en harmonie avec les prochains autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, à notre foi, ajoutons les dimensions d'action. Ajoutons les dimensions d'amour et de justice. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.